Lésion traumatique du muscle, l'article signé Annie Gourier, kiné actualité numéro 993 du 8 septembre 2005. Les muscles biarticulaires des membres inférieurs, soumis à de grandes variations de longueur, sont les plus souvent lésés. Le traitement chirurgical est exceptionnel. Habituellement, après glaçage et bandage semi-compressif, la mobilisation reprend, accélérant la régénération et améliorant l'orientation des tissus avec l'indolence pour règle générale. Les muscles striés représentent environ 40% de la masse corporelle. La longueur de la fibre musculaire ou cellule va de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Généralement, les fibres musculaires parallèles entre elles s'étalent sur toute la longueur du corps musculaire. Chaque fibre reçoit une seule terminaison nerveuse. À l'intérieur d'une fibre musculaire, on trouve des milliers de myofibrilles. Chaque myofibrille étant elle-même constituée de myofilaments, organisés en sarcomère, l'unité contractile du muscle. Les fibres musculaires. On distingue deux types de fibres musculaires, les lentes de type 1 et les rapides de type 2. Les premières, très vascularisées, ont un métabolisme oxydatif et sont donc riches en mitochondries et en myoglobine, ce qui leur donne leur couleur rouge. Peu fatigables, elles permettent des contractions prolongées. Les muscles qui en possèdent en grande quantité sont ceux qui servent au maintien de la posture. Les fibres de type 2 ont davantage de myofibrilles, avec une capacité de pompage du calcium supérieure. Le réseau capillaire y est peu développé, les mitochondries y sont peu abondantes et le métabolisme est de type glycolytique. Les muscles, dans la composition desquels ces fibres sont majoritaires, sont pâles, leur contraction rapide développe une tension élevée, mais ils se fatiguent vite. Dans un muscle, la proportion de fibres rapides et de fibres lentes est étroitement liée à sa fonction. Le muscle strié fait montre d'une grande adaptabilité à la demande fonctionnelle et est susceptible de modifier sa composition en réponse à l'activité dominante qui privilégie l'un ou l'autre mécanisme. Morphologie et squelette fibreux. Les muscles s'insèrent sur l'os par l'intermédiaire du tendon. Il peut s'agir d'un tendon unique, à surface d'insertion étroite, ou de lames fibrotendineuses planes, parfois multiples, comme dans le cas du dentelé antérieur. La jonction myotendineuse est soit brève, soit très étendue, avec dans ce cas une véritable pénétration fibrotendineuse dans le corps musculaire. L'orientation des fibres musculaires par rapport au tendon peut être longitudinale ou oblique, muscle peiné, ou transversale. Les caractéristiques morphologiques de l'ensemble corps musculaire-tendon déterminent le comportement du muscle. Un muscle long, dans le prolongement de son tendon, permet un grand déplacement à vitesse rapide, alors qu'un muscle peiné a un déplacement court à vitesse faible avec une force plus importante et un potentiel d'étirement réduit. Le relais tendon-corps musculaire se fait par l'intermédiaire des enveloppes conjonctives. Ces multiples enveloppes et cloisons se répandent autour des faisceaux de fibres, autour du muscle dans son ensemble, entre les fibres, reliant les faisceaux les uns aux autres, les muscles à leurs voisins, s'entremêlant en un maillage complexe. Elles forment un véritable squelette fibreux. Un muscle présente des sous-unités d'organisation différentes, longitudinales, obliques, transversales, de même que les jonctions myotendineuses sont d'orientation variée et de résistance inconstante. Gravité des lésions. Les lésions musculaires sont fréquentes dans le monde sportif. Elles concernent principalement les muscles des membres inférieurs, que sont les ischio-jambiers, le droit fémoral et le triceps sural, en particulier le gastrocnémien médial. Ce sont tous des muscles biarticulaires, soumis à de grandes variations de longueur et exposés à un étirement important. la zone de faiblesse habituelle et la jonction myotendineuse. Les lésions d'origine endogène sont essentiellement dues à l'étirement, à la vitesse de l'étirement, dans un contexte de déséquilibre de force agoniste-antagoniste. Le rôle de la raideur musculaire passive fait débat. Certains la considèrent comme un facteur de risque, d'autres comme une protection. On classe ces lésions en 4 stades. Au stade 1, le tissu conjonctif de soutien est intact et quelques fibres musculaires sont touchées. La blessure se manifeste par une douleur, une contracture, une diminution de force. La récupération est totale en quelques jours. Le sport peut reprendre après disparition des douleurs. Au stade 2, l'atteinte du tissu conjonctif reste modérée. La quantité de fibres musculaires lésées est plus élevée et il n'y aura pas restitution complète. La douleur vive n'impose pas l'arrêt immédiat de l'activité. Le retentissement fonctionnel dépend de la localisation. En 10 ou 15 jours, on obtient une cicatrisation de bonne qualité. La reprise du sport a lieu lorsque la contraction résistée et l'étirement deviennent indolores. Le stade 3 se caractérise par la présence d'un hématome, la désorganisation du tissu conjonctif et de nombreuses fibres musculaires lésées. La douleur aiguë et l'impotence fonctionnelle marquée imposent l'arrêt de l'activité sportive. L'évolution s'étale sur 4 à 12 semaines en fonction de l'importance des lésions. Au stade 4, le muscle est partiellement ou totalement rompu. L'hématome est volumineux et diffus. La douleur violente et l'impotence fonctionnelle totale contraignent à un arrêt immédiat de l'activité. Les ruptures totales ne sont pas aussi catastrophiques qu'on pourrait le craindre. La rétraction des deux moignons musculaires laisse la place à une cicatrice fibreuse sans tension. Elle devient indolore et, quand le muscle fait partie d'un groupe musculaire, sa fonction est prise en charge par les muscles agonistes. Le diagnostic de lésion musculaire est clinique, accompagné d'un interrogatoire minutieux. La contraction résistée est un des éléments parlants, possible ou non, faible, montrant une déformation, dépression ou globulisation, à moins que l'œdème la masque. Si le diagnostic est plutôt aisé, l'évaluation de la gravité l'est beaucoup moins et repose en général sur l'échographie. Dans certaines localisations, elle reste confuse. C'est alors l'IRM qui identifie les lésions. Les contusions, elles, passent parfois inaperçues quand elles sont bénignes ou ne se révèlent qu'à distance du choc par une gêne qui s'atténue après échauffement. En revanche, les contusions graves sont franchement douloureuses et responsables d'une impotence fonctionnelle immédiate et souvent totale. Un hématome se forme par éclatement des petits vaisseaux, plus ou moins accompagnés de la dilacération d'un contingent de fibres musculaires. Généralement, cet hématome se résorbe, mais il arrive qu'il s'enkyste dans le tissu cicatriciel ou se calcifie, devenant alors source de douleurs persistantes. Soins et rééducation. Le premier réflexe après l'accident, c'est la cryothérapie. On lui attribue un effet de vasoconstriction, de réduction du flux sanguin, de diminution du spasme musculaire et de la conduction nerveuse, notamment des influx nociceptifs. Après une application de glace de 24 minutes, la conduction ne redevient normale que 30 minutes plus tard. Il faut donc se méfier d'une antalgie trompeuse et ne pas reprendre l'activité sportive sans diagnostic lésionnel. Les sprays refroidissants, appliqués brièvement, manquent d'efficacité. En effet, la chute de la température n'atteint son maximum qu'en un peu plus de 10 minutes d'application d'une source de froid. Le plus efficace reste donc la glace par l'intermédiaire d'un linge humide. Toutefois, En traumatologie aiguë, les modalités d'application demeurent empiriques. Les protocoles vont de 10 à 20 minutes d'application, 2 à 4 fois par jour, jusqu'à 45 minutes toutes les 2 heures. Le bandage semi-compressif constitue la seconde mesure classiquement adoptée. Il favorise l'hémostase et le rapprochement des faisceaux musculaires. Sur les muscles biarticulaires, il est bon de l'étendre à l'une des articulations afin d'éviter l'étirement. La vérification des pouls distaux et de la sensibilité est indispensable compte tenu du risque de syndrome de loge aiguë iatrogène. La conservation d'une contention au-delà de l'épisode aigu est souhaitable dans la mesure où elle constitue une protection et favorise le drainage circulatoire, ce qui n'empêche pas la mobilisation qui accélère la régénération musculaire et améliore l'orientation des fibres et du tissu cicatriciel, mais se fait dans les limites de la non-douleur. L'indolence est en effet le reflet fiable du seuil de tolérance de la lésion à l'étirement et assure le respect de la cicatrisation. La reprise de la marche répond au même principe. Elle se fait, si nécessaire, sous couvert de cannes anglaises et, dans le cas du triceps, d'une talonnette pour raccourcir la course musculaire. Le travail musculaire dynamique est lui aussi guidé par la règle de l'indolence. Il s'opère d'abord en concentrique, en course interne, progressivement allongé, secondairement en excentrique à vitesse lente, selon la même progression. Le travail contre résistance, manuel d'abord et d'intensité croissante, est ensuite introduit pour aboutir à des exercices excentriques à vitesse rapide et en course externe. Si à ce stade, le kinésithérapeute estime qu'un potentiel de récupération subsiste, il aura recours à des exercices pliométriques, à des gestes rapides qui alternent agonistes et antagonistes, contractions concentriques et excentriques dans toute la course. En même temps, il s'emploie à récupérer toute la course externe par des étirements. En parallèle, le sportif reprend progressivement l'entraînement sur le terrain en incluant des étirements à base de contracter-relâcher et sans dépasser 60% de l'intensité d'effort habituelle dans son sport. La reprise sportive progressive à 100% est conditionnée par l'indolence aux tests cliniques en décharge et en charge. Passer outre cette consigne expose à la récidive, tout en sachant qu'aucune observation clinique, aucune imagerie n'est infaillible et que la sécurité totale n'est pas garantie. Le délai de reprise est fonction de la gravité de la lésion, mais aussi de sa topographie. Lorsqu'elle se situe à la jonction myotendineuse, la cicatrisation plus longue ne permet pas d'envisager la reprise avant 6 semaines. Indication chirurgicale. Dans les lésions musculaires, les indications chirurgicales sont rares. En aiguë, elle se limite à l'évacuation d'un hématome volumineux et de manière non systématique à la réparation d'une rupture ou désinsertion complète, soit à la jonction musculo-aponévrotique ou musculo-tendineuse, soit à la jonction ostéotendineuse. La ponction à l'hématome n'est envisagée lorsqu'il n'a pas régressé spontanément au 4e jour, pour éviter qu'il s'enkyste. Jusque-là, en effet, la pression exercée par l'hématome assure l'hémostase et le ponctionner plus précocement exposerait à la récidive. La suture d'une rupture n'est concevable qu'une fois l'hématome évacué et le siège de la lésion bien identifié. Les désinsertions sont plus accessibles à la réparation chirurgicale que les ruptures en plein corps musculaire. Dans ce dernier cas, entre parenthèses ischio-jambier, solaire, droit fémoral, Le chirurgien, après avoir excisé les débris musculaires et la partie dévitalisée qui ne se contracte pas sous la pince chirurgicale, et après hémostase, fixe les extrémités au plan aponevrotique profond en évitant une traction excessive. Le membre est immobilisé pendant 4 jours et glacé régulièrement. La mobilisation passive débute après ce délai. Un maintien statique en fin d'amplitude favorise l'orientation du tissu cicatriciel. Le délai de cicatrisation est de 4 semaines et l'arrêt des activités sportives se prolonge au minimum sur 8 semaines. La chirurgie se conçoit également dans les lésions anciennes et chroniques. Il peut s'agir de l'évacuation d'un hématome enkysté, dont il faut également resséquer la coque fibreuse, ou bien, exceptionnellement, de l'excision de nodules et cicatrices fibreux gênants qui n'ont cédé ni à la kinésithérapie, ni à l'infiltration de corticoïdes ou encore d'une rupture musculaire ancienne qui prend la forme d'une tuméfaction proximale contractile en battant de cloche. Tant que cette tuméfaction n'est pas gênante, aucun geste n'est indiqué. Si elle devient douloureuse, par irritation des filets nerveux dans le tissu fibreux, une injection de corticoïdes et de xylocaïne est tentée. En cas d'échec, la chirurgie offre deux possibilités, la résection du moignon proximal ou la suture sans tension à la ponévrose voisine. La réparation vraie n'est plus pensable, le moignon étant considérablement rétracté et fibrosé. Les hernies musculaires qui siègent habituellement au niveau de la loge antérolatérale de jambe et dans la partie distale de la face antérolatérale de cuisse sont rarement gênantes. Elles disparaissent à la contraction. S'il y a gêne, la fermeture chirurgicale de l'aponévrose ou une greffe de fascia lata supprime la hernie, mais cette intervention ne fait pas l'unanimité chez les chirurgiens. Le préjudice, comme dans les ruptures anciennes, étant surtout d'ordre esthétique. La cicatrisation prend un mois sans sport. La myosite ossifiante ou ostéome musculaire, heureusement rare, représente la complication la plus grave. D'origine mystérieuse, apparaissant pour des lésions minimes, on la suspecte devant la réactivation d'une douleur. Ou l'installation d'une contracture très dure, d'une perte du ballottement musculaire, d'une rétraction. Elle survient le plus souvent à la face antérieure de la cuisse en profondeur, au niveau du vaste intermédiaire, entre parenthèses crurale. Elle atteint la maturité osseuse en 6 mois. La mise au repos précoce entraîne parfois une régression du processus d'ossification. Le traitement médical à base d'anti-inflammatoires et de radiothérapie à dose anti-inflammatoire est décevant. Si l'ostéome reste gênant après 6 mois d'évolution et une scintigraphie pour s'assurer de son inactivité, l'exérèse chirurgicale est programmée, suivie d'un nouveau traitement anti-inflammatoire et radiothérapique pour prévenir les éventuelles récidives. La kinésithérapie modérée à base de massage, étirement en douceur, levée de tension, puis tonification en excentrique, n'aboutit pas toujours à la réhabilitation totale du muscle. La découverte d'une myosite ossifiante est une mauvaise nouvelle, elle hypothèque la poursuite de la carrière sportive. Pour terminer cet article, je vous lis un encart intitulé « Régénération musculaire ». Un muscle lésé aux fibres musculaires mécaniquement abîmées ou détruites est susceptible de régénérer à partir des cellules satellites. Ces cellules embryonnaires, qui ne se sont pas développées, sont présentes dans le muscle sain adulte, mais inactives, dormantes. Elles se trouvent activées pendant la phase de dégénérescence musculaire qui suit la lésion, sans doute sous l'influence de facteurs de croissance. Elle se multiplie alors et fusionne pour constituer le myotube à l'intérieur duquel elles formeront la fibre musculaire. Ces cellules satellites se situent à la face interne de la membrane basale, l'endomysium, qui enveloppe un groupe de fibres musculaires. Tant que cette membrane reste intacte, les cellules satellites accomplissent leur travail de réparation. Si elle est rompue, les cellules se dispersent dans les espaces extracellulaires au lieu de fusionner, compromettant sérieusement les possibilités de régénération. D'autres conditions président à la régénération, à commencer par la vascularisation, car les cellules satellites ne survivent que quelques heures à l'ischémie. La dénervation, elle, n'entrave pas la phase initiale de la régénération, mais compromet la maturation des fibres musculaires. Les jonctions neuromusculaires très sensibles à l'ischémie sont toutefois susceptibles de régénérer rapidement. Les facteurs mécaniques, traction et donc mobilisation, conditionnent pour leur part l'orientation et donc l'efficacité des fibres musculaires initialement tortueuses. On voit donc que le respect de la trame conjonctive, de la vascularisation et de l'innervation sont nécessaires à une restitution ad integrum du muscle. Plus la lésion est grave, assurément à partir du stade 3, plus cet espoir s'éloigne. Les conséquences fonctionnelles ne sont pas pour autant dramatiques, les muscles agonistes compensant souvent le déficit du muscle lésé. C'était un article signé Annie Gourier d'après les communications de messieurs Rodineau, Mercier, Chapuis, Bêche, Forêt, Benezis, Lutz, de la Barrère, Middleton, au 23e entretien de médecine physique et de réadaptation à Montpellier le 3 mars 2005.